Voici Marceau le midi.
Notre passionné de Marketplace, Pascal CV, qui reçoit des découvertes sur Marketplace. Puis il y a un monsieur qui cherchait un sofa Elrand. Il a écrit dans l'onglet « Rechercher sofa Elrand ». Et là, il y a une multitude de sofas Elrand qui paraissent. Et sur une des images, il y a un homme...
sur le divan.
D'un âge mûr, je te dirais, 70, 80, qui est en retraite.
J'ai l'impression qu'il ne pouvait pas bouger beaucoup de fauteuil.
Puis qui est couché sur le divan. Fait que sa femme s'est dit, je veux vendre le sofa. Puis elle l'a pris en photo, tel quel, sur son sofa. Puis elle a mis ça sur Marketplace.
Elle s'est peut-être dit, je veux vendre mes vieilleries en même temps. Là.
Ouais. Oh,
non, mais pour vrai, merci là, aux auditeurs qui commencent
oui.
à...
Mais je suis pas sûr que les gens se rendent compte
non.
des fois de l'impact des réseaux sociaux.
Non.
Il y a un de mes chums qui m'a envoyé une conversation de sa mère avec son nouveau chum. Puis au lieu de se parler par messagerie,
mm-hmm.
ils se parlaient directement sur leur mur.
OK, oui.
Puis il y avait des malaises.
Oups. Non, je me sens moins bien pour eux.
Nous,
mais là, ça leur tentait pas. Les enfants, mettons, ils n'avaient pas assez d'amour pour leur mère, pour leur dire, tu sais, maman, faut que ça cesse sur le
ouais.
mur.
Oui, ben, je pense qu'ils ont dit par la suite, mais... Nous autres, on prenait ces screenshots-là, puis après ça, ben, on faisait une présentation à notre cercle d'amis. On avait bien du plaisir.
Mais moi, je me prépare là, une couple de publications Marketplace.
Ouais. 418-971-1021, 418-971-1021. Je ne sais pas si tu es tombé sur cet article-là. Reportage de Félix Séguin concernant les gardiens de prison qui sont de plus en plus ciblés à l'extérieur des murs. L'article discute de choses qui se sont passées dans le secteur de Montréal, mais à la grandeur du Québec, il peut y avoir ce genre de trucs-là qui se passent. Je te parlais d'une policière que je connaissais qui travaillait pour le service de police de la ville de Sainte-Marie, donne un ticket à un monsieur qui dépassait les limites, une affaire de 150 sur l'autoroute, puis sur la route, une affaire, sur la route, c'est-à-dire, et il la croise à l'épicerie après, alors qu'elle est avec son enfant.
Mm-hmm.
Et là, tu comprends qu'il la suit dans l'épicerie juste pour y faire peur. Elle doit absolument contacter le service de police pour dire, ben là, il y a un gars dans l'épicerie. T'sais, elle, c'est une police, mais elle dit, là, il y a un gars dans l'épicerie qui est en train de me suivre, puis c'est un gars à qui j'ai donné un ticket. C'est pas gros, la bosse, tout le monde se connaît. Fait que les policiers sont intervenus, mais... Faut pas que ça arrive, ce genre de truc-là.
Non, ça va trop loin. Puis, on le voit aussi avec des intervenants à la DPJ. On le voit. Puis dans ce que tu parles, toi, par rapport aux gardiens de prison, c'est dans le tout gros reportage sur les gangs de rue aussi.
Ouais.
Là.
Écoute, mercredi, la voiture d'un employé du centre de détention a été visée par un cocktail Molotov. La station radiophonique du coin a diffusé les images du début de l'incendie qui était sur le capot de la berline. Ça se passe à Saint-Jérôme.
Ouais.
Ensuite, samedi en soirée, il y a un employé qui a avisé les policiers d'un incident qui pouvait mettre sa sécurité en jeu. Une voiture suspecte a été aperçue près de chez elle à Mirabel et l'un de ses passagers aurait tenté de forcer la portière de son véhicule. Dans les heures précédant l'événement, elle aurait été insultée par un individu non loin de son lieu de résidence. Ses occupants auraient été arrêtés et seraient connus du service de police. Autre cas de bidon d'essence, deux autres personnes qui ont été interceptées 24 heures plus tard à l'intérieur du périmètre de la prison située à la porte des Laurentides. Et selon les informations, ils étaient en possession de bidons d'essence. Donc, tu comprends qu'eux autres, ils voulaient encore faire des trucs sur les chars des agents correctionnels.
Ouais.
Puis il y a plein d'autres cas. Je trouve ça hallucinant. Puis comment faire? Parce que surtout, ce qu'on veut, c'est comment faire pour que ça n'arrive pas, ça. Donc, on a décidé de jaser avec Mathieu Lavoie, qu'on connaît bien, que j'aime bien d'ailleurs, qui est directeur national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Salut Mathieu.
Salut.
Merci de t'être libéré pour nous jaser. J'imagine que le reportage de TVA Nouvelles, c'est pas quelque chose que tu savais pas. Tu savais que ça se faisait là, de l'intimidation sur vos agents correctionnels?
Ben oui, à l'intérieur des murs, ça fait des mois, des années qu'on décrit là, l'intimidation, les menaces. Les propos de certaines personnes criminalisées, des gangs de rue en particulier, qui vont dire « on sait où t'habites, on sait dans quel quartier, on va te retrouver ». Des fois, ça va plus loin. Des fois, c'est « chez tes enfants vont à telle école ». Dans certaines régions ou dans certains établissements qui sont plus en région, ben, on voit ça, aller à l'épicerie, rencontrer des gens. Donc, c'est quelque chose qu'on est au fait. Mais là, on parle de gangs de rue qui passent des contrats à l'extérieur pour intimider le système judiciaire, intimider les agents parce qu'ils sont mécontents de se faire saisir des choses à l'intérieur. On parle de gens qui sont affiliés là, à côté bleu là, des gangs de rue. C'est l'information qu'on a actuellement. Donc, clairement, c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir qu'on a perdu ce contrôle-là au fil des années. parce que le droit du détenu passe avant la sécurité des soins dans nos établissements.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça, pour plus jamais que ça arrive? J'ai des petites questions au niveau de la sécurité. Est-ce que vos agents, sont leur prénom et leur nom de famille sont mentionnés à l'intérieur du centre de détention de Québec? Exemple?
Oui, actuellement, quand je parlais du droit de détenu, on doit s'identifier, c'est très important, parce qu'il veut faire une plainte, puis si on ne s'identifie pas, l'employeur nous tape dessus. Tu sais, clairement, là, on est tombé dans un côté au service correctionnel où peut-être que, là, 30 ans, on était trop coercif. Là, on est rendu tellement permissif dans les droits. Il faudrait peut-être trouver le milieu. Là. Oui. Je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est le message que le ministre doit envoyer à ses autorités. On doit ramener le contrôle dans nos
Mais je veux être certain, dans les centres de détention, dans les prisons du Québec, là, est-ce que c'est le nom est affiché sur vos chemises ou est-ce que c'est juste un numéro de matricule? Puis s'il y a juste le numéro de matricule, comment ils font pour arriver à trouver le prénom et le nom des individus qui s'occupent d'eux?
Actuellement, on a des name tags avec nos noms qui sont identifiés et si on le porte pas à bien des endroits, je vous dirais, il y a des gestionnaires qui nous courent après pour nous dire « Hey, t'as pas ton intact, ton uniforme est pas conforme, c'est important. » Tu sais, des fois, là, j'ai l'impression que certains gestionnaires s'appliquent à appliquer des choses banales alors qu'il y a peut-être des choses plus importantes actuellement à regarder.
Ouais. Mais est-ce que les gestionnaires porteraient leur prénom et leur nom de famille directement sur leur chemise quand ils interdisent?
Ils portent leur nom de famille également sur leur chemise. Là.
Je pense qu'on a peut-être un début de solution à ça. On pourrait peut-être mettre juste un numéro de matricule pour que les détenus puissent les identifier par le numéro, mais le prénom et le nom de famille, tu peux être sûr que moi, tu ne me verras jamais au centre de détention de Québec pour comme agent de la paix. C'est sûr et certain. Je vais penser à ma famille d'abord et avant tout.
Bien, ça, c'est clair. Là. Puis, pour nous, actuellement, oui, on est en discussion là, au sein du ministère sur différents. C'est sûr que là, on gère une situation de crise où on propose des solutions d'ajout d'effectifs parce qu'on a des problématiques. On doit regarder laquelle est la prioritaire. Actuellement, dans beaucoup de nos établissements, on a des caméras qui ne marchent plus, puis on se fait dire par la SQI, ah ben là, on n'a pas les morceaux, ça va aller dans 6 mois, 1 an.
Ouais.
C'est un peu ridicule, là. Mais oui, en effet, là, de ne pas être identifiable. On rappelle aux agents aussi de ne pas discuter de leur vie à l'établissement parce que les personnes incarcérées, des fois, ont les oreilles longues. Clairement, il faut faire attention à ça.
Est-ce que vous allez faire des approches auprès des policiers pour que, advenant le cas où il y a d'autres choses du genre qui se passent, qu'on pourrait peut-être, dans un avenir rapproché, durcir les sentences pour ceux qui voudraient faire de l'intimidation sur nos policiers, nos policières, nos agents correctionnels?
C'est sûr que le système judiciaire, là, il y a des accusations qui sont envers les agents de la paix qui sont plus graves et clairement, on doit s'assurer que le DPCP va porter ces accusations-là. Parce que c'est de l'intimidation d'officier de justice là, qui est fait là. Donc, oui, il y a des représentations. Actuellement, là, il y a des rencontres avec la Sûreté du Québec. C'est sûr que c'est pas la Sûreté du Québec qui décide nécessairement des accusations, c'est le DPCP, là, le directeur des poursuites criminelles et pénales, mais il doit y avoir tout ce bon monde-là, doit se parler. Le ministre Bonnardel doit faire ses représentations pour Simon-Jeanin Barrette également. On a quand même là, actuellement une collaboration entre les services correctionnels et la Sûreté du Québec pour nous assurer justement que ces événements-là ne se reproduisent pas. On sait, dans le passé, il y en a eu des événements tragiques au service correctionnel qui étaient pour intimider le système judiciaire au temps de la guerre des motards. Et on ne doit pas retourner là. Et clairement, on doit passer un message clair aux gangs de rue que c'est pas eux qui mènent en place.
Oui, mais on dirait que ça me semble un peu évident là, pour vous aussi. Vous êtes quand même directeur national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel ici au Québec. Mais tu sais, j'entends beaucoup de conversations à avoir, de prise de conscience au gouvernement à avoir aussi. Qu'est-ce qui a mené à ça? Sais-tu, les réseaux sociaux maintenant, on est capable à 2 clics, même si on change le nom d'une personne sur Facebook, de la retrouver. Est-ce que c'est le fait que les barrières de la hiérarchie et du respect sont tombées? Est-ce que c'est parce qu'auparavant, il y avait, somme toute, une entente entre un agent correctionnel et un détenu, même s'ils ne jouaient pas dans la même équipe? T'sais, c'était la zone tampon entre la justice et ce qui se passait dans la rue, quand même, l'agent correctionnel. Est-ce que c'est ces choses-là qui ont permis, justement, aux criminels, peut-être, de dire hey, « moi, je m'en fous, je vais m'en prendre à ces agents de correctionnels-là que j'haïs, tu sais? »
Bien, il y a de différentes raisons, probablement. Je dirais, là, il n'y a jamais eu de grandes analyses, de grandes études, mais quand on regarde l'évolution du crime dans les dernières années, l'évolution des technologies également, Il y a 10 ans, des introductions en détention, c'était des petites quantités par des pitchs, par des balles de tennis. Aujourd'hui, c'est des drones qui amènent une très grande quantité, qui amènent des armes blanches, qui amènent des cellulaires intelligents, de la drogue. Et il y a un marché tellement lucratif actuellement pour certaines organisations criminelles de, justement, on peut avoir des fois des saisies de 25, 30, 40 000 $ en valeur à l'intérieur des murs. Donc, clairement, quand ils se font saisir, il y a un mécontentement. De l'autre côté, on est devenu moins coercif, on est devenu moins rigide, les règles se sont élargies, les droits aux personnes incarcérées d'avoir leur avocat en tout temps, dans tout service. Okay. On est dans un contexte où le service correctionnel actuellement fait du 5 étoiles, tout est inclus pour les personnes incarcérées, puis c'est l'objectif visé par certains gros dirigeants.
Tu sais, il y a des organisations dans le monde qui ils font à peu près la même affaire que les gangs de rue. La mafia, exemple, peut faire la même affaire. Puis les policiers ou encore les agents correctionnels qui sont à l'intérieur des murs portent des cagoules, puis ils sont identifiés par des chiffres, tout simplement. Tu sais, on va-tu en venir là pour réussir à avoir des agents correctionnels qui n'ont pas peur de travailler puis de faire ce job-là puis de se faire écœurer à l'extérieur? Parce que je pense que quand on est un agent correctionnel, qu'on soit un homme ou une femme, on est capable de faire le métier. Mais là, si ta conjointe peut être menacée, si ton chum peut être menacé, si tes enfants peuvent être menacés, c'est un step supplémentaire, Mathieu. Moi, l'histoire d'identification avec le prénom puis le nom de famille, tu sais, d'ailleurs, tous tes agents correctionnels, quand je les croise sur Facebook, ils ont des noms différents, là. C'est facile à trouver en sacrifice quand tu as le prénom et le nom de famille. On pourrait pas travailler un peu là-dessus avec Bonardel?
Ben, écoutez, c'est sûr que ça pourrait. C'est une solution, une piste intéressante. On en a déjà parlé. Puis clairement, moi, pour ma part, ce que je dis aux agents, quand ils me rendent, portez-le pas, mes dagues. L'employeur va vous menacer, va vous dire je vais vous sanctionner, va vous passer en équité procédurale. Mais là, clairement, on est dans un contexte où il y a un risque. Ah oui. Par contre, comme je vous disais, l'esprit des services correctionnels, la réinsertion à tout prix, il faut être humain, il faut écouter. C'est peut-être là qu'il faut changer un peu notre vision actuelle. Quand on regarde les personnes incarcérées qu'on a à l'intérieur, qui sont de plus en plus dangereuses, de plus en plus de gangs de rue, qui sont présentes et qui ont beaucoup moins de règles non écrites, disons, dans leur comportement.
C'est souvent des jeunes, Mathieu. C'est souvent des jeunes, Mathieu, qui n'ont rien à perdre. Ils ont rien. La famille n'est peut-être pas présente. Conjoint, c'est pas nécessairement dans leur plan. Ils n'ont pas nécessairement d'argent. Ils se ramassent en tôle, sont prêts à tout pour essayer de se faire une pièce. C'est des gens qui n'ont rien à perdre. Les Hells Angels ou les gros mafieux qu'on avait à Montréal, il y avait des millions et des millions et des millions de dollars à perdre. Eux autres, en dedans, là, quand tu es pour un gang de rue, tu n'as rien à perdre. Tu es extrêmement dangereux pour les agents correctionnels.
Bien, clairement, il faut changer notre mentalité. Il faut qu'il y ait une évolution du service correctionnel. Et c'est là qu'on demande au ministre de défendre un message clair dans les différentes lignes de communication de ses gestionnaires pour dire c'est inacceptable. Il l'a dit hier dans une de ses sorties que c'était inacceptable, que les gens devaient payer pour ça, mais clairement, il faut aussi changer la mentalité du service correctionnel. Et ça fait longtemps qu'on le dit qu'il y a une problématique à cet égard-là.
Entièrement d'accord. Allez-vous faire des moyens de pression dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Bien, on s'en va en négociation de convention. Fait que clairement, il va en avoir. Mais je ne vous dirai pas quand exactement, mais ça s'en vient également.
Bon, je pensais que tu allais me dire la date.
On va s'en reparler à ce moment-là.
Ouais, c'est toujours un plaisir, Mathieu.
Plaisir.
Merci beaucoup. Mathieu Lavoie, qui est directeur national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel. L'histoire dont on vous parle, ça se passe à Saint-Jérôme, où il y a des agents correctionnels qui se font faire des menaces à l'extérieur des murs, des véhicules qui sont vandalisés, des véhicules qui passent près des résidences très lentement, des portes de véhicules qui sont testées. Ça laisse craindre le pire pour les agents correctionnels de Saint-Jérôme. Puis je me dis, mais comment ces gens-là réussissent à savoir où reste exactement l'agent correctionnel?
Bien, souvent, ils ont des équipes quand même, parce que s'ils sont en prison, ils ont été capables de faire un crime probablement qui avait besoin d'informations sur certaines personnes aussi. C'est là où moi, je pense qu'ils sont plus équipés maintenant, ces genres de groupes criminalisés-là qu'ils étaient il y a quelques années. Ouais. Mais il y a aussi, je trouve, beaucoup ce respect de la hiérarchie. Qui, tu sais, auparavant, mettons, autant qu'un journaliste, là, qu'il n'y avait pas de clan. Là. Il n'y avait pas le clan de la police, il n'y avait pas le clan des criminels. Tout ce qu'il voulait, c'est rapporter. Puis il était capable de parler aux deux côtés.
Il était respecté.
Puis il était respecté. Bon, il y a eu des débordements, là. Il y a tout le temps des têtes brûlées. Ouais. Mais il était respecté. Puis l'agent correctionnel, c'était ça aussi. C'était la zone tampon. Bien que l'agent correctionnel fait respecter la loi puis s'assure que tout le monde est en sécurité puis qu'il y a un bon ordre dans la prison, c'était la zone tampon entre l'extérieur puis le crime de ces gangs-là ou de ces individus-là. Pourquoi est-ce que... Là, vous allez me sortir la toune de Bob Épine, là, puis vous allez me dire que ça n'a pas toujours été de même. Je comprends. Mais malgré tout, quand on parle à ces agents correctionnels-là, la différence qu'ils voient, c'est beaucoup le petit bum de rue qui est maintenant entre les murs des prisons.
Et qu'il n'y a rien à perdre. Mais mets-toi à place d'un... Je te mets à place d'un agent correctionnel, Pascal. Tu viens de faire une saisie, tu retires des milliers de dollars, comme Mathieu l'a dit, d'une cellule, puis un pic, puis peut-être un cellulaire. Et le gars te dit... Regarde, tu sais pas ce qui va t'arriver, mais il y a quelqu'un qui va se pointer chez vous. C'est quoi le... Qu'est-ce que tu fais? En sortant du centre de détention, qu'est-ce que tu fais? T'es pas armé, puis tu dois prendre ton véhicule personnel, puis tu t'en vas te coucher chez vous.
J'appellerai assurément les policiers, mais tu sais, c'est sûr que dans ta tête, ça roule. Puis sûrement que cet individu-là est prêt à aller très, très loin parce que son boss sera pas content qu'il s'est fait saisir.
Puis tu passes combien de fois dans ton quartier avant de t'assurer que tu te fais pas suivre?
Ça se peut que tu t'en ailles pas chez toi ce soir-là.
Puis après ça, tu croises un gars que tu as gardé en dedans pendant 3 ans, qui t'a fait chier, puis tu le croises à l'épicerie. Tu fais quoi? C'est pas facile pour ces gens-là. Mais moi, juste l'idée du name tag avec le prénom puis le nom de famille, ce serait... terminé, tu mets 75 chiffres. Là. Fait que tu mets 75 chiffres pour être sûr et certain de les identifier. Puis merci, bonsoir.
Il y a un agent correctionnel qui nous écrit qui dit « Aucun problème de se faire intimider, menacer et autres, mais touche pas à ma famille, par exemple. » On nous disait aussi au départ que beaucoup de détenus reviennent dans le pénitencier parce que tous les chums sont en dedans. Fait que c'est sûr que quand t'as ta gang de chums, t'es capable d'être sur le pouvoir, puis la menace, puis l'organisation de répercussions envers ton agent correctionnel aussi. Là. Ils sont capables de jaser, puis de faire des plans du pas possible.
11h53, on vient.
Marceau le midi. Marceau le midi. Présenté par FS Prêt. Personne n'est à l'abri des imprévus. Pour un prêt d'urgence sans enquête de crédit...